Bienvenue dans le podcast Nos Futurs, la parole à la relève, coproduit par Le Monde, Les Champs Libres, Sciences Po et la Métropole de Rennes. L'épisode que vous allez écouter s'intitule « Doit-on donner son avis sur tout ?» Ce débat a été enregistré lors de la 3e édition du festival Nos Futurs. Il est introduit par les étudiantes de Sciences Po ayant imaginé la rencontre et est animé par Le Monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la 3e conférence débat du festival Nos Futurs. Je m'appelle Bleuhen et avec Clémentine et Oksana, nous faisons toutes les trois partie du comité éditorial ayant participé à la conception et l'organisation de cette conférence autour de la prise de position en société. Au quotidien, nous sommes constamment abreuvés d'informations. Internet et nos réseaux favoris nous bombardent de chiffres et de connaissances. Et au-delà de ces informations, il nous est souvent demandé de donner notre avis, de prendre part à des débats, et justement des débats qui, parfois, nous dépassent et dont on ne maîtrise pas toujours les codes.
Que ce soit pour la vaccination obligatoire, les différentes actualités géopolitiques ou encore le choix d'Aya Nakamura pour l'ouverture des JO, nous avons le sentiment, et c'est peut-être aussi le cas pour certains d'entre vous ici, d'être incités à prendre position, à réagir à ce que l'on voit et ce que l'on entend. Peu importe d'où on vient et qui l'on est, il faut prendre parti. Il semble même parfois déplacé de ne pas avoir d'avis. Cette prise de position immédiate a pour conséquence l'absence d'analyse et l'absence de recul. Cela aboutit à un débat public très binaire dans lequel la pensée complexe n'a pas ou pas suffisamment sa place, où l'on peut faire face à des problèmes de désinformation, voire de manipulation. Plus concrètement, en tant qu'étudiante en sciences politiques, il est attendu de nous que l'on se positionne sur chaque sujet, que ce soit un simple fait divers ou bien la polémique du moment. Ainsi, on nous demande d'avoir un avis tranché et argumenté sur certaines questions. Parfois, on ne sait pas quoi dire, parce que l'on manque d'informations sur le sujet, qu'on y porte très peu d'intérêt, ou tout simplement parce que l'on n'a pas d'avis.
C'est ce constat qui nous a donné envie de construire la rencontre d'aujourd'hui. L'occasion d'inviter des personnalités très différentes afin de venir s'exprimer sur le sujet. La présence d'un journaliste nous semblait nécessaire afin de comprendre en quoi le sujet de notre conférence est central dans le fond des débats contemporains. Il nous était ensuite primordial d'inviter une personne issue des milieux de la recherche, afin d'amener un regard critique et universitaire sur le sujet. Afin de mettre en lumière l'aspect intergénérationnel de notre festival, il nous semblait important d'inviter une chroniqueuse portant la voix de la jeunesse au sein de notre société. Enfin, nous avons également invité un humoriste pour qu'il puisse s'exprimer sur la prise de position et de l'argumentation par le prisme de l'humour.
Alors voilà, il est maintenant temps pour nous de clore cette introduction afin de laisser place au débat et aux échanges avec les invités. Et nous vous souhaitons une bonne conférence.
Bonjour, bienvenue au festival Nos Futurs, un festival coproduit par Les Champs Libres, Le Monde, Sciences Po et Rennes Métropole. Je m'appelle Josepha Lopez et je suis journaliste au Monde. Alors, doit-on donner son avis sur tout ? Comment le partager ? Comment argumenter ? Doit-on toujours se positionner ? A-t-on le droit de se taire ? Et quand ? Quelle place pour la nuance et le débat ? C'est presque un sujet philosophique qu'on vous propose cet après-midi. On va faire une sorte de samedi philo. Et pour parler de ce sujet, nous allons accueillir 4 invités. Parmi eux, Jean-Michel Apathy, qui est aujourd'hui éditorialiste chez Quotidien. On l'a bien sûr retrouvé depuis ses 30-35 ans de carrière dans d'autres médias comme RTL, Europe 1, France Info, LCI, Canal+. Mais aussi Séverine Falkovitch, qui est maîtresse de conférences à l'université d'Aix-Marseille. Elle est psychologue en psychologie sociale et elle est notamment co-autrice d'un ouvrage qui s'intitule « Au cœur de l'esprit critique, petit guide pour déjouer les manipulations ». Elle travaille sur les ressorts de la communication, la manipulation, l'argumentation. Elle nous en parlera. À ses côtés, viendra nous rejoindre Haroun, humoriste avec plusieurs spectacles à son actif, dont le dernier s'intitule « Seul » au pluriel. Et enfin, Flora Gebali, fondatrice de l'entreprise Coalition, qui accompagne au quotidien les entreprises, les pouvoirs publics, pour qu'ils accélèrent leur transition écologique et sociale. Flora a été engagée en politique, notamment aux côtés de François Hollande, mais on la retrouve ces derniers temps sur les plateaux télé, où elle est souvent chroniqueuse ou invitée, notamment chez les Grandes Gueules par exemple. Et elle est l'autrice d'un livre, l'avant-dernier, intitulé « Ma génération va changer le monde ». On les accueille. Bonjour à tous les quatre et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors dans le public, on vous invite à poser vos questions. Et pour ça, je me tourne vers ma collègue du Monde, Iris Iribernégaraille, qui travaille pour la rubrique Campus et qui sera votre relais.
Oui, bonjour à tous. Je vais me faire donc la porte-voix du public pendant cette heure et demie. Donc vous avez deux options pour poser vos questions. Soit vous scannez le petit QR code. Pas si petit d'ailleurs, le QR code qui s'affiche à l'écran. Vous écrivez vos questions et je les transmettrai quand Josépha me donnera la parole, souvent. Et l'autre option, ce sera de prendre le micro de façon plus classique, peut-être plutôt en fin de conférence.
Je vais commencer par peut-être un petit tour de table pour que vous découvriez nos invités. Jean-Michel, je vais commencer par vous. Quand on s'est eu au téléphone plusieurs fois, vous doutiez un petit peu de la thématique, de la formulation de cette rencontre, notamment déjà peut-être pourquoi, et vous aviez peur qu'on fasse peut-être le procès de la presse.
Oui. Est-ce qu'on doit donner son avis sur tout ? Non. Évidemment non. Il vaut mieux répondre non que oui, je crois. Je vais vous dire pourquoi j'avais peur. Et puis après, si je peux garder juste le micro rapidement, je voudrais faire un ou deux petits compléments. C'est-à-dire que je trouve que dans la période actuelle, mais au fond de tout temps, on met assez facilement en cause le journalisme, bavard, etc. Et les chaînes d'information, qui sont une donnée relativement récente dans le débat, une dizaine d'années, nourrissent ce procès. Et donc j'avais un peu peur de ça, parce que je pense que le journalisme a... moi j'adore en parler, mais je pense qu'il a peu d'impact dans la construction de l'opinion publique. Donc faire un débat autour de cette question me paraissait posséder un potentiel un peu artificiel et désagréable. Mais je suis là maintenant.
Tout à fait, on vous en remercie.
Doit-on donner son avis sur tout ? Suggère qu'on ait répondu à une question qui n'est pas formulée mais qui est préalable. A-t-on un avis sur tout ? Et la question de l'avis est une question importante parce que nous sommes tous des citoyens. Ce statut même nous oblige à nous intéresser, puisque nous déléguons le pouvoir, nous choisissons ceux qui nous dirigent, que ce soit dans le domaine de la politique au sens chimique du terme, ou associatif, ou la politique étant partout, tout est politique, nous oblige quelquefois à réfléchir à des questions qui sont loin de nos préoccupations, de nos vies quotidiennes, et peuvent nous amener à nous poser des questions que l'actualité nous suggère et auxquelles nous n'avons pas vraiment de réponse. Ensuite, quand une discussion entre amis, en famille, arrive comme ça, on donne son avis en étant un peu informé, moyennement informé, pas du tout informé, découvrant le sujet en même temps que la discussion, et on donne son avis parce que ça fait partie de la vie. Voilà. Et donc, oui, on donne son avis facilement, et quelquefois, il vaudrait mieux ne pas le faire, mais on le fait quand même, parce qu'on aime ça. Et professionnellement, mais ça j'aurai l'occasion de le détailler, puisque je suis journaliste, moi je ne donne pas mon avis sur tout, et davantage que ça, on ne me le demande pas surtout. Il y a des sujets sur lesquels on pense que je n'ai rien à dire. Et donc, on ne me pose pas la question. Et donc, je ne dis rien. Et la parole publique, quand elle existe, elle est quand même plus maîtrisée que peut-être on peut le penser par réflexe. Si les journalistes peuvent donner l'impression du bavardage, c'est un bavardage qui est plus souvent réfléchi et construit qu'on ne le pense.
Justement, pour rebondir avant de continuer le tour de table, vous intervenez donc tous les soirs dans Quotidien, à la fois sur des éditoriaux, sur des chroniques. Comment vous choisissez justement les thématiques chaque soir ? Si je reprends par exemple un exemple pour ceux qui ne regardent peut-être pas Quotidien, cette semaine, vous avez parlé de la lutte contre le trafic de drogue, de l'inceste suite à l'apparition du livre de Christine Angot, du service public, de l'Ukraine, d'Ayana Kamoura et de Marine, suite à l'interview de Marine Le Pen, à la radio, de Poutine. Voilà, ce sont des thématiques très variées. Comment vous les choisissez ?
Christine Angot vient mercredi soir présenter son film. Elle a confronté des proches, des gens de sa famille, à l'inceste. Parce que elle a écrit tous ses livres sur l'inceste qu'elle a subi de la part de son père. Et son sentiment est que si dans la société on parle des violences faites aux femmes aujourd'hui davantage qu'on en a parlé à d'autres périodes, l'inceste demeure un tabou. L'évocation de l'inceste demeure une vraie difficulté. Donc elle a confronté des membres de sa famille à cette thématique. Et j'ai vu le film, j'ai eu l'occasion de le voir, puisqu'il est sorti mercredi, j'ai eu l'occasion de le voir avant, et je connais le travail Angot de Christine Angot depuis un moment, et je trouve que c'est un combat qui est émouvant, parce que c'est une femme courageuse, et donc j'ai eu envie d'en parler. Donc ça, c'est pas très difficile. En revanche, mardi, j'ai fait... après, je vais arrêter là, je peux raconter mes œuvres. J'ai fait un éditorial sur une formule de Marine Le Pen à propos de Aya Nakamura. Marine Le Pen, invitée mardi matin de France Inter, a dit qu'elle était une humiliation pour la France. Et j'étais au volant quand j'ai entendu cette interview, et le mot humiliation m'a tellement fait bondir. Comment une Française peut-elle humilier la France ? Parce qu'en fait, Marine Le Pen ne regarde pas Aya Nakamura comme une Française. Sa peau est noire, son nom est étrange, elle chante curieusement. Donc, c'est une étrangère qui humilie la France. Et j'ai voulu faire mon éditorial là-dessus, parce que quand on est issu d'une famille politique qui a été marquée par la parole raciste, on a beau la cacher, la planquer, la comprimer, il y a des moments où, paf, ça sort. Voilà. Et donc, j'ai voulu faire mon éditorial là-dessus.
Flora, vous avez 30 ans. Vous êtes donc entrepreneuse, j'ai déjà fait votre présentation. Et dans votre livre, donc l'avant-dernier, du coup, « Ma génération va changer le monde », vous commencez en disant « J'ai toujours été engagée ». Est-ce que ça fait partie de l'engagement de donner aussi son avis, d'avoir l'habitude de s'exprimer et de ne pas en avoir peur, en tout cas ?
Je sais pas, parce qu'il y a plein de façons de s'engager. On peut pas dire que donner son avis sur tout, c'est le moyen d'être engagé. Quand on est chercheur et qu'on passe 40 ans de vie professionnelle à chercher quelque chose de très précis, c'est un sacré engagement. Quand on veut toucher artistiquement les gens, c'est un vrai engagement. Enfin voilà, il y a plein de manières de s'engager dans la société, donc je dirais pas ça. En revanche, sur mon cas personnel, j'ai mis du temps à donner mon avis sur tout. Parce que, en fait, je vous fais quand même rapidement un contexte. Moi, je participe à une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules, qui est sur RMC. Les Grandes Gueules, à la base, c'est deux journalistes qui se disent « On veut des personnes de la société civile qui ont un avis sur tout ». Autrement dit, qui ont une grande gueule, parce que ça va un peu... Enfin, j'ai l'impression que l'un va un peu avec l'autre, donner son avis tout le temps sur tout. On dirait ça dans la vie quotidienne. Ah oui, elle a une grande gueule. Et donc, ils se mettent à réunir un espèce de café du commerce, parce que c'est rien de plus que ça. Et en fait, ça rencontre des audiences pas possibles depuis 20 ans. C'est vrai que moi, on me dit souvent, quand je croise des auditeurs dans la rue, « Merci, grâce à vous, quand j'arrive au bistrot, j'ai des choses à dire. » Et ça, je me dis, mince, faut pas dire de conneries, ça nous oblige, cette histoire. Parce que du coup, on, vous savez, en communication politique, il y a quelque chose qui s'appelle les éléments de langage. On appelle même ça les EDL dans le jargon, donc éléments de langage. Et en fait, les éléments de langage, ça va être, par exemple, on écrit une note et on va dire à toute une famille politique, donc, je sais pas, à tout un parti, par exemple, ou à tout un groupe à l'Assemblée nationale, ce sujet, vous allez l'aborder de cette manière. Et donc, on va donner, par exemple, 3 bullet points, donc 3 points clés, et vous allez entendre pendant 15 jours tout un gouvernement répéter des points clés. Et moi, je
quotidien
crois...
Quotidien se régale, en général, de ça.
Et quotidien, d'ailleurs, se régale à mettre la lumière sur les éléments de langage, et vous avez bien raison de l'observer, parce que c'est très intéressant. Et d'ailleurs... moi, je crois beaucoup que ça, cette fabrique des éléments de langage qui est vraiment stratégique et consciente, participe à la fabrique de l'opinion et donc à la fin au vote. Parce que quand, voilà, c'est l'art de la répétition. Quand à la fin, vous entendez toujours la même chose de la même manière, bah, vous êtes influencé, peut-être même manipulé. Vous nous donnerez votre avis scientifique sur la question et ça vous crée peut-être un comportement électoral. Et donc, je me suis rendu compte qu'au Grandes Gueules, on était une espèce de fabrique à éléments de langage citoyen, ce qui est très responsabilisant comme sujet. De toute façon, donner son avis, c'est responsabilisant, parce qu'il faut le faire, évidemment, de manière responsable, en sourçant ses faits, etc. Ceci dit, je pense que là où il y a un problème, c'est que je ne sais pas si les auditeurs des Grandes Gueules, ou si vous ici, ou si les gens en général, savent faire la différence entre un espèce de café du commerce scénarisé. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, une vidéo d'humour ou même de fake news, ou même de ce qu'on veut, puisqu'aujourd'hui, j'ai juste à prendre mon téléphone portable et je peux raconter ce que je veux, et si ça buzz, bah, y aura des millions de gens qui verront ce que j'ai envie de raconter. Et même moi, donc depuis que je fais des médias, moi, à la base, je suis entrepreneur dans la transition écologique. Il se trouve que pendant le confinement, j'aurais pu apprendre à faire du pain, mais je me suis mise à écrire un livre. Ça, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Il se trouve que mon livre est sorti, que là, il y a BFM qui m'a appelé, qui m'a dit « Vous voulez faire des chroniques sur l'écologie ?» Et je suis rentrée dans cette vie médiatique un peu comme ça, sans forcément... en le voulant, parce que j'étais super contente, mais sans forcément l'avoir prémédité. Et en fait, à la fin, tout le monde me dit « Ah oui, toi, t'es journaliste ». Mais je ne suis pas du tout journaliste, je ne suis pas formée au journalisme. Et je me demande si les gens savent faire la différence entre un journaliste donc qui a une responsabilité professionnelle de sourcer ses faits, mais surtout de parler de faits. C'est surtout ça le sujet. Et de sourcer, tout le monde a cette responsabilité, mais de parler de faits. Et moi, par exemple, une éditorialiste ou une chroniqueuse qui a pour son travail, c'est de donner son opinion, de donner son avis surtout. Et donc, je crois que c'est très important la façon dont la question est posée. La question, c'est pas est-ce qu'on doit tout savoir sur tout, c'est est-ce qu'on doit donner un avis et quel est le niveau de subjectivité qu'on tolère dans la vie.
Avant d'analyser tout ça, parce que là, je pense qu'il y a pas mal d'éléments à analyser, Haroun, vous interrogez le public sur la société moderne, sur les travers de l'humanité presque. Vous partagez donc finalement votre avis à travers des sketchs. Mm-hmm. Comment vous choisissez, vous, vos sujets? Qu'est-ce qui vous décide à en faire un sketch? Et comment peut se retrouver votre avis, justement, dans ces mises en scène?
J'essaie de le donner le moins possible. Parce que moi, mon rôle d'humoriste...
Mais vous choisissez des sujets, quand même.
Je choisis des sujets. Donc, c'est un peu comme Jean-Michel disait. Enfin, j'essaie de voir s'il y a un parallèle, mais c'est plus quelque chose qui me touche, qui me gêne, qui me met en colère, qui me fait rire. Quelque chose qui me touche émotionnellement et je m'en débarrasse dans l'écriture. Peut-être que ça fait cet effet-là aussi avec Jean-Michel quand il voit Marine Le Pen ou quand il voit Christine Angot, mais il y a quelque chose d'émotionnel dont j'ai besoin de me débarrasser. Je vais essayer de coucher des idées sur un papier et voir si ça peut être marrant. Et si c'est marrant, je vais le partager avec un public. Et le but, c'est pas tellement de dire ce que j'en pense. Le but, c'est de dédramatiser un sujet. Parce que moi, il m'a touché émotionnellement, donc ça m'a blessé, ça m'a mis en colère. Souvent, c'est des émotions assez négatives dont je me débarrasse. Et donc, si je parle de la guerre, je vais pas vous dire je suis pour ou contre Poutine, etc. Je vais essayer de soulever ce qui est un peu ridicule dans une situation humaine. Et j'espère que les gens, en sortant de là, vont s'en parler avec moins de violence en entrant dans la salle.
Est-ce que c'est pour les aider, peut-être eux, à discuter et peut-être à se faire aussi un avis, à essayer de,
oui,
sans les orienter ou les guider?
Alors, d'abord, il y a l'envie de s'intéresser au sujet et l'envie d'en discuter de façon plaisante. C'est-à-dire que ce soit agréable d'en discuter. Parce qu'au final, c'est intéressant de donner son avis, parce que si personne ne donnait son avis, il n'y aurait pas de discussion. On se verrait et puis et on attend d'être renseigné pour se voir entre amis, pour discuter. Ce qui n'est pas possible. C'est intéressant de confronter ses avis, de s'enrichir mutuellement jusqu'au moment où ça devient violent, en fait. Et le problème de la discussion, quand elle devient violente, c'est qu'on se braque et que le sujet nous touche trop pour qu'on en parle. Mon but, c'est qu'à travers le rire, ce soit un exutoire et qu'on puisse se débarrasser des émotions qu'on a négatives pour pouvoir y réfléchir au moins. Et je dirais que l'avantage, et c'est peut-être aussi le sens d'avoir un avis ou pas, l'avantage d'essayer d'avoir un avis, c'est de réfléchir au final, c'est de formuler une pensée, qu'elle soit intuitive ou renseignée, mais qu'au moins il y ait quelque chose qui émerge de ça et qu'on sorte de la discussion un peu plus enrichi que quand on y est entré. Je dirais que c'est l'avantage principal. Après, on sait très bien qu'on ne va pas convaincre la Terre entière et on sait très bien que notre avis ne va pas changer le monde non plus, que ce soit le mien ou celui de Aya Nakamura, ou etc. Mais voilà, moi, en tout cas, je m'empare des sujets qui me touchent d'abord émotionnellement et après, en effet, il faut que je me renseigne pour écrire, mais ça, c'est peut-être une autre part du débat, quoi.
Mais dans votre spectacle, alors je vais vous citer, je serai beaucoup moins drôle forcément, donc je vais mettre aucun ton spécial dans cette citation. Vous dites « Dans la vie, quand t'es fort, tu dis aux gens ce que tu penses. Si les gens ne sont pas d'accord avec toi, tu leur pètes la gueule. Mais quand t'es faible comme moi, si tu leur dis ce que tu penses, mais qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, tu leur dis « Ah, je rigole ». Est-ce que l'humour, du coup, ça peut aider? Parce que là, on peut peut-être aider aussi les gens à soit avoir un avis, soit essayer de réussir à détourner peut-être quand on leur demande un avis. Est-ce que l'humour, ça peut aider?
Oui. L'humour, c'est comme un médiateur. C'est-à-dire que ça permet de communiquer avec la paix, quoi. C'est-à-dire que si j'ai assez d'humour sur moi-même et que je fais preuve d'assez d'autodérision et que je suis capable de dire que mon avis n'est pas le bon forcément, ou en tout cas il est contestable, forcément, je vais arriver face à mon interlocuteur beaucoup moins violemment et je vais peut-être avoir un avis aussi plus ouvert en face et je vais être moins dans la confrontation. Forcément, moi, je pense que sourire et rire avec l'autre et pas de l'autre, mais sur tous les sujets possibles, c'est hyper important. Et je dirais même que ce qui est intéressant dans les blagues, quand je les écris, c'est le questionnement. C'est-à-dire que mon avis, je m'en fous un peu, moi, de partager mon avis sur scène. Ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est de me questionner moi-même sur est-ce que ce que je pense, c'est vraiment la bonne chose à penser? Pourquoi je pense ça? Est-ce que je peux me tromper? Et au final, il y a un truc un peu socratique de poser des questions au lieu d'avoir un avis, mais de confronter l'autre à des questions et d'essayer de repartir de la conversation éventuellement avec un avis. Mais déjà, avec des questions, en s'intéressant à l'autre, en s'intéressant au monde, mais sans a priori, sans avis particulier, mais avec des questions, orientées ou pas, finalement c'est ce qu'on fait là, on fait émerger l'idée en même temps qu'on est en train de parler. Je trouve que la démarche est intéressante, et c'est la recherche de l'avis qui est intéressante, plus que le fait d'avoir un avis. Moi, quand j'écris un spectacle, la recherche de l'écriture et le fait que je me documente sur un sujet est quasiment aussi jubilatoire que de jouer sur scène.
Séverine Falkovitch, vous avez donc travaillé sur ce sujet. Peut-être que ça a fait émerger des idées d'entendre nos trois autres invités parler. Pourquoi, vous, le sujet de la prise de position, de l'argumentation, de l'opinion vous intéresse?
J'aurais plutôt tendance à dire oui, mais dans certaines conditions. Pourquoi et comment ? L'idée n'est pas tant de juste donner son avis en disant « je pense ça », mais plutôt d'essayer d'échanger, pas pour imposer son avis face à celui de l'autre, qui serait donc un avis contradictoire. L'idée serait plutôt d'essayer de réfléchir ensemble quant à ce que l'on pense, en essayant d'évaluer les raisons pour lesquelles on pense ce qu'on pense, pour essayer d'avancer ensemble vers la construction d'une position plus juste. Et donc, moi, ce que je propose en termes de notion, c'est la notion de bienveillance en la dissociant, en fait, on va dire, en deux catégories. D'une part, la notion de bienveillance épistémique. Alors, de quoi s'agit-il, hein? Épistémique, c'est-à-dire une bienveillance qui serait relative au savoir. Nous avons tout intérêt à essayer de défendre les positions que nous jugeons les meilleures. Et donc, pour ça, bien entendu, il va falloir disposer de bons arguments. Bon. Après, même, imaginons que nos arguments ne soient pas les meilleurs. Mais pour autant, le fait de dire sur quoi reposent nos points de vue, ça nous permet aussi de pouvoir dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Mais donc, toujours aller voir qu'est-ce qu'il y a en matière de fondement. Voilà. Et l'autre forme de bienveillance, comme ça, je peux ne faire que la mentionner, c'est ce qui relève de la bienveillance relationnelle. Penser aussi que parce qu'on est intelligent, on va être capable d'exercer son esprit critique, ça ne suffit pas.
Merci beaucoup. Je crois qu'on a des questions, Léa.
Oui, on a pas mal de questions, notamment des questions qui reviennent, je pense, plutôt pour Jean-Michel Apathy et Flora Gebali. Je vais les regrouper. Y a quelqu'un qui dit « Les gens devraient faire la différence entre chroniqueur, éditorialiste et journalisme sourcé, mais à trop avoir recours aux deux premiers, n'entretient-on pas la confusion ?» Je vais poser l'autre qui est un peu dans la même idée. Les éditorialistes et autres « grandes gueules » entre guillemets participent à la fabrique de l'opinion, n'est-ce pas au détriment de l'esprit critique, et quelle est leur légitimité ?
D'abord, quand l'éditorialiste, c'est mon titre aujourd'hui, j'en suis très heureux, je trouve que c'est un beau titre, s'exprime, franchement, moi je ne pense pas manipuler l'opinion publique, hein. Quand je dis quelque chose, j'imagine qu'il y a des gens qui seront d'accord avec moi et j'imagine qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Et quand je fais un tour sur Twitter, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Donc, il n'y a aucun problème. Je sais que je ne manipule personne. Mais plus sérieusement, la première question. On distingue éditorialiste et journaliste. Et de l'intérieur, puisque c'est mon métier, je dirais que c'est un avis que je vous livre, qu'on a tort de distinguer les deux. Journaliste est un mot générique qui regroupe différentes fonctions. Le reporter, le présentateur d'un journal, beaucoup d'autres fonctions, et l'éditorialiste. Vous ne pouvez pas imaginer un projet de presse sans un éditorialiste, c'est-à-dire sans quelqu'un, c'est très minoritaire dans un collectif de journalistes. Un éditorialiste, c'est quelqu'un qui exprime le point de vue, la sensibilité du projet qui regroupe des journalistes. Le Figaro a un éditorialiste. Le Monde a un éditorialiste.
Plusieurs
d'ailleurs. Oui, mais enfin, un, quoi. C'est-à-dire, ce sont toujours des gens qui expriment l'état d'esprit dans lequel travaille la collectivité. Et un éditorialiste travaille sur des faits, mais donne à ces faits une couleur, une teinte, une profondeur, quelque chose. Et il ne faut pas imaginer d'ailleurs que le journalisme, ce sont des faits et uniquement des faits. Pas du tout. Le journalisme, c'est la transmission d'une information complexe. C'est-à-dire qu'une information, ce sont des faits bruts qui s'inscrivent dans un temps donné, dans une société qui a une histoire, un passé, une sensibilité, et le journaliste sur le terrain qui observe une situation restitue tout ça. Il y a beaucoup de subjectivité dans la démarche. Moi, j'entends des journalistes quelquefois qui disent que le journalisme sont des faits, rien que des faits. Il n'y a rien de plus faux que cela. La vie produit toujours quelque chose de complexe qui met en scène beaucoup d'éléments, et le journalisme doit tout restituer. Et l'éditorialiste est un journaliste parmi les autres. Et distinguer l'éditorialiste des journalismes, des journalistes, c'est au fond adopter une démarche anti-intellectuelle. Une démarche assez curieuse, assez commune hélas, mais assez curieuse, qui ôte le droit de penser d'une certaine manière à des professionnels. Et donc je pense que c'est une pente qui n'est pas juste. Et moi, si je suis éditorialiste, je m'inscris en tout cas dans une sous-catégorie du journalisme en étant éditorialiste.
Merci pour ces questions. À vrai dire, c'est des questions que je me pose aussi beaucoup. Et c'est vrai qu'à la base, moi, j'étais pas trop d'avis de donner un avis sur tout. Et c'est vrai qu'on se demande même est-ce qu'on doit écouter des gens qui sont pas des experts? Est-ce que on devrait pas écouter simplement les scientifiques, parce que c'est eux qui détiennent la vérité, ou en tout cas qui s'en approchent le plus? Et donc ça pose même une question aussi énorme et vertigineuse que le rapport de nos sociétés à la vérité. Et moi je peux pas vous répondre sur cette grande question de qu'est-ce que la vérité, parce qu'on a vu aussi des contre-exemple, pendant par exemple la crise du Covid, on a dit tout de suite les experts, les scientifiques. Et bon, il y a certains scientifiques qui se sont permis aussi leur lot de fake news. Moi, quand on m'a proposé d'aller sur BFM, je me suis dit au début, j'ai pas forcément eu un envie. Bah, déjà, j'avais peur, et puis surtout, je me suis dit, mais je suis pas légitime. Forcément, puisque déjà je suis pas scientifique, et puis en plus il y aura forcément plus légitime que moi. Et après j'ai regardé la télé, j'ai regardé BFM, j'ai regardé d'autres chaînes, et en fait je me suis dit le problème c'est pas tellement la légitimité, c'est plutôt qui prend la place. Parce que à la fin, pour moi, tout ça est politique. Alors politique avec un P majuscule, qui est au sens de la vie dans la cité, la fabrique de l'opinion. Et c'est en fait tout ce que vous entendrez, c'est toujours une tentative de répondre à la question comment on vit tous ensemble. Pour moi, ça c'est la plus large question. C'est la question que posait déjà Aristote quand il parlait de l'animal politique. Donc en fait, toutes les questions politiques que vous, tout ce que traite, j'imagine, Jean-Michel tous les jours dans ses éditos, peuvent rentrer sous cette question de comment on vit tous ensemble. Et moi, j'ai pas d'expertise journalistique, mais j'ai des convictions. Je suis une militante. Et donc ma réponse, même si elle est en évolution et peut-être que dans quelques années j'en aurai encore une autre, c'est de dire, en fait, en attendant, une société, c'est une fabrique de l'opinion qui va influencer et qui va donner une direction. Et donc, qui va se positionner dans cet espace pour influencer? Et le problème, c'est qu'on laisse beaucoup des personnes influencer. Et est-ce que mon camp était suffisamment représenté dans les espaces où on me proposait d'intervenir? J'avais l'impression que non. Et donc, pour moi, c'était plus une volonté d'occuper l'espace et de défendre une conviction qui n'était pas représentée dans ces espaces. Voilà, c'était un choix personnel. Après, le livre vraiment que je vous recommande sur cette grande sujet, c'est le livre d'Edward Bernays, qui est l'inventeur de la communication politique, un Américain, qui s'appelle Propagande, ou Propaganda, je ne sais plus, enfin, vous le trouverez, Edward Bernays, et qui raconte comment on influence une société à grande échelle. Et c'est vraiment passionnant parce qu'on voit bien, quand on lit ce livre, après, dans les médias, tous les jours, les mécaniques. Le deuxième sujet, c'est qu'on pourrait dire on interdit la parole aux gens qui n'ont pas d'expertise sur des sujets. Le problème, c'est que ça toucherait à la liberté d'expression, la liberté de la presse et la liberté des médias de choisir leur ligne éditoriale. Et donc, à un moment, on se heurte à la démocratie et je suis plus démocrate que soucieuse d'avoir que des paroles expertes. Enfin, je pense que c'est un enjeu qui est plus important. Et enfin, je terminerai rapidement. Vous avez peut-être écouté ce super podcast sur la vie, l'œuvre de Léon Blum. Et il nous raconte à un moment que Léon Blum, au procès de Pétain, donc Léon Blum était un grand homme politique de gauche qui a fait des grandes réformes sociales de gauche. Et il témoigne au procès de Pétain. Et quand on lui demande quelle est sa profession, il répond « journaliste ». Et en fait, Léon Blum, c'est aussi quelqu'un qui avait un édito à une période de sa vie quotidien, dans un quotidien politique, et donc il donnait son avis tous les jours dans la presse. Et donc, on se dit, il y a eu une époque où on avait moins besoin de mettre des frontières, peut-être, entre les professions. Alors, à raison ou à tort, je vous laisse juger. Mais où, finalement, en fait, c'était aussi conscient que les personnes qui avaient un projet politique avaient aussi une voix et une voix dans la presse. Et ce que je trouve un peu injuste pour les journalistes, c'est qu'aujourd'hui, on dirait qu'on découvre que les journalistes ont eux-mêmes des opinions, ont eux-mêmes des biais, ont eux-mêmes un regard sur la société, alors qu'on leur demande d'être des ordinateurs complètement neutres. Pour ça, c'est ChatGPT, c'est pas les journalistes. Les journalistes, c'est des êtres humains dotés d'une sensibilité, d'un regard sur le monde. Et donc, je crois que c'est plutôt positif, toutes ces conversations qu'on a aujourd'hui, puisqu'on réalise que chaque être humain a ses biais, a sa façon de voir le monde, et peut-être que c'est aussi grâce au fait qu'on écoute des nouvelles façons de voir le monde, notamment celle des femmes, notamment celle des minorités, notamment celle des jeunes. Et encore, on n'est que, pour moi, au début de ça. Mais peut-être que toutes ces questions arrivent parce que d'un coup, on voit le monde avec différentes lunettes. Et donc, on se dit, c'est plus compliqué que ça. Et donc, la question, c'est quand on est militant, comment on se bat pour convaincre, pour montrer mes lunettes. Moi, ce que je veux faire, c'est montrer avec quelles lunettes je regarde le monde et essayer de convaincre parce que ça me paraît être juste et je crois que c'est juste une action politique et militante.
D'ailleurs, je crois qu'il y a une autre question pour Aaron cette fois-ci.
Oui.
Il y en a plein. Je préviens, j'anticipe comme ça. Hop.
Se prépare. Alors oui, Aaron, faire rire sur un sujet ne revient-il pas à le décrédibiliser et donc finalement à donner son avis dessus? Ça, c'était une première question et j'en profite pour vous en glisser une autre. N'avez-vous pas peur que l'humour banalise certains sujets graves ?
Je dirais que ça peut décrédibiliser, mais je pense que le danger n'est pas pour moi de crédibiliser ou décrédibiliser un sujet. À partir du moment où déjà j'en parle, ça veut dire que je le crédibilise. Je parle de mon point de vue, pas du point de vue des autres humoristes. Il y a toujours une question qui revient sur le rire, est-ce qu'on rire de tout, etc. Les fois où j'ai traité de sujets clivants ou de minorités qui souffraient, etc., il s'avère que les personnes concernées par ces sujets avaient tendance à rire et à remercier les humoristes qui traitaient du sujet, de les intégrer dans l'humour. C'est-à-dire que, justement, je lisais un livre sur l'essence qui s'appelle « L'essence de la comédie » de Lavandier, qui disait que extraire des gens ou un sujet du rire, c'est l'oublier, en fait, et se faire comme si ça n'existait pas, alors que, justement, ces gens ont besoin de l'humour, ont besoin de la blague, ont besoin d'en rire avec les autres pour montrer qu'elles sont capables d'avoir une autodérision, qu'elles sont capables de vivre avec les autres, etc. J'ai fait un sketch qui s'appelle « Pas que » où je dis je suis pas islamophobe, enfin pas que, je suis aussi antisémite. Et j'ai fait des blagues sur ma perception des musulmans actuellement et ma perception des juifs actuellement et à quel point je pouvais m'entendre ou pas avec n'importe qui dans les communautés. J'avais pas à avoir un avis positif ou négatif sur une communauté, mais que sur des gens. Et le fait que j'ai traité du voile, de ce que je voyais, du fait que j'avais pas d'avis sur le voile, parce qu'en fait, c'est intéressant d'ailleurs, parce que on en avait parlé, non ? C'était sur Sud Radio où on m'a pris pour une grande gueule, que je n'étais pas, et on m'a demandé mon avis sur le voile, et j'ai justement dit, j'ai pas d'avis sur le voile, parce que je suis pas une femme, je suis pas théologien, je suis pas religieux, c'est pas à moi de dire si quelqu'un doit porter un voile ou pas, je n'ai absolument pas d'avis, et j'en ai toujours pas aujourd'hui. Et j'en ai fait un sketch en disant que chacun a son avis, et même au sein des musulmans, tout le monde n'est pas d'accord. Qu'il y ait une discussion, etc., c'est très bien. Moi, je suis pour, il n'y a aucun problème. Mais c'est parti du fait que je n'avais pas d'avis, et j'ai embrayé sur les musulmans qui me remerciaient d'avoir dit « j'ai pas d'avis sur le voile » dans un média. Et donc, j'ai rigolé sur à quel point ils sont en galère en ce moment pour me remercier de ne pas avoir d'avis sur les musulmans. Quoi. À quel point ils sont contents que je ne dise rien sur eux. Donc,
peut-être j'en profite, il y a des gens qui demandent comment on fait pour se faire un avis quand on n'a pas d'avis.
Ouais, mais...
Peut-être que d'autres vous ont rien, mais...
Peut-être les autres vont répondre, mais en tout cas, justement, en parlant de ça, je n'ai pas décrédibilisé le sujet. Je pense que, justement, ça a plus dédramatisé, et je pense que dédramatiser un sujet, ça permet de le crédibiliser dans le sens où on va en parler un peu mieux ensemble. Voilà, ça c'est ma réponse à la première question. Et la deuxième, c'était...
Voilà, peut-être que d'autres pourront répondre aussi, mais si vous avez des conseils concrets, je pense que c'est aussi ça que ça l'atteint, c'est quand on n'a pas d'avis sur un sujet.
Alors, non, parce qu'il y avait la question de la banalisation.
La deuxième question de tout à l'heure, c'était sur est-ce que l'humour ne peut pas banaliser des sujets ?
Des sujets qui sont graves. C'était ça la question.
Moi, je pense que si. Et j'ai un avis très critique sur actuellement l'humour dans la société qui est... Dans ce mélange des genres qui est propre à tout ce qui se passe en ce moment, il y a un rire constant qui n'a plus de valeur en fait. C'est-à-dire que tout le monde peut être humoriste, tout le monde peut donner son avis politique. Enfin, il y a des humoristes qui donnent des avis politiques, il y a des politiques qui font des blagues, il y a des éditorialistes qui sont des politiques blagueurs. Qui font de l'humour. Et en fait, je pense qu'il y a une sorte, et je vais un peu dans le sens de Beck BD, même si je suis pas fan de ses idées, mais il y a une sorte de ricanement constant qui fait un peu oublier la gravité de certaines choses. Et je trouve qu'il y a un peu ce qu'on appelle l'infotainment, que je déteste, je déteste ce terme, mais il y a un peu ce truc, allez, après la guerre en Ukraine, la chronique des machins. Et moi, je trouve que parfois, ça tombe un peu comme une pub malvenue, quoi, pour essayer d'alléger l'atmosphère, alors qu'il n'y a pas besoin de l'alléger. On sait vivre avec le drame et il faut vivre avec. Voilà, ça c'est un avis très personnel que je donne. Parfois, en effet, le rire est un peu là pour divertir, là où le divertissement n'a pas sa place.
Si je peux me permettre de rebondir, juste Jean-Michel, dans Quotidien, il y a une succession, effectivement, de sujets.
Quotidien, moi j'ai participé 9 ans à une émission qui s'appelait Le Grand Journal. Typique de l'infotainment. Écoutez, c'était vachement bien. Parce que vous parlez d'un sujet sérieux, vous en parlez sérieusement, et puis une fois que vous avez fini d'en parler, vous parlez d'autre chose. C'est un peu ce qu'on fait tous dans la vie. Et ça n'est pas parce que vous parlez d'autre chose après avoir parlé d'un sujet sérieux que le sujet sérieux a perdu de sa gravité. Que les gens qui vous ont écouté, on n'est pas des... Enfin, il y a quelque chose dans le cerveau, quoi. Que les gens qui ont écouté la chronique qui suivait le sujet sérieux ont oublié le sérieux du sujet. Donc la critique ne me semble pas pertinente. Si on veut éviter l'humour quand on traite des sujets sérieux, ça s'appelle le journal télévisé. Voilà, où la mine plombée, on vient vous annoncer tous les soirs que le monde est en train de s'écrouler. Bon, il faut que ça existe aussi. Donc on peut faire autre chose. C'est une diversité. Au grand journal, la critique était récurrente au grand journal. Mais c'est pas parce que la critique était récurrente que moi, elle m'a paru pertinente. Je trouve au contraire que c'est une manière assez raffinée de parler de l'actualité et de la vie telle qu'elle est. C'est assez juste, voilà. Ça nous oppose, disons. Voilà.
Juste, Haroun voulait compléter sa réponse.
La critique que j'ai à faire là-dessus, c'est que des émissions qui permettaient de formuler la pensée ont disparu au profit de choses qui sont beaucoup plus rythmées, beaucoup plus divertissantes. Et je trouve que parfois, on n'a pas le temps, en fait. C'est ça qui, moi, me gêne, c'est qu'on n'a pas le temps encore de terminer un sujet, qu'on est déjà passé à l'autre, parce qu'il faut tout de suite divertir. Je regarde, par exemple, beaucoup Ce soir ou jamais. Moi, j'étais fan de cette émission. Le vendredi soir, ça a duré des plombes, avec des gens qui parlaient pendant longtemps, avec plein de fonctions en dessous quand on les annonçait. Mais au moins, on avait le temps de discuter d'un sujet pendant 2 heures, avec beaucoup de discussions, c'était dense. Mais je dirais qu'il n'y avait pas mon collègue ou moi qui venait interrompre en disant on fait des blagues et on perd un peu le fil du truc. Et parfois, je trouve qu'on perd un peu le fil et que la pensée passe à la trappe, quoi.
Séverine ?
Pour dire qu'on a de l'esprit critique, il faut pouvoir savoir de quelle manière on traite l'information. Donc, ça implique des connaissances qui relèvent, par exemple, des biais cognitifs, mais qui vont également relever de la rhétorique, pour savoir en fait quels sont les facteurs dans les discours qui peuvent nous influencer. Ça peut aussi impliquer le fait de savoir pour quelles raisons on croit ce qu'on croit. Il y a plein de variables, plein de raisons pour lesquelles en fait on est attaché à des positions plutôt qu'à d'autres. Et savoir peut-être aussi comment l'être humain fonctionne, avoir des connaissances sur la façon dont on va adhérer à des groupes, enfin pour quelles raisons on fait ce qu'on fait, quand on nous amène à faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe derrière. Je donne un exemple tout bête, hein, mais le fait qu'on vous dise « Venez, ça ne coûte rien, venez, c'est gratuit, vous pouvez essayer. » Le fait de vous amener à faire un premier pas dans une direction donnée, vous pourriez penser que vous restez libre derrière de penser, de choisir. En fait, non, souvent, le fait de faire un premier pas dans une direction donnée, ça va vous engager dans cette direction-là. Et là, c'est intéressant parce que ça touche à ce qui relève de la manipulation. Alors, dans le champ de la pensée, nous sommes souvent exposés à des raisonnements qui peuvent être en apparence logiques, hein, extrêmement logiques, mais pour autant, il est possible d'articuler des arguments de telle sorte que ces raisonnements, tout en ayant l'apparence de la logique, au final, ce sont des raisonnements faux. Lorsque la personne est mal intentionnée, on va parler de sophisme. Lorsqu'elle est bien intentionnée, et ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense, on va parler de paralogisme. Donc, connaître en fait ces formes argumentatives, avoir des éléments de connaissance dans le champ de la rhétorique, ça permet d'identifier des points problématiques et ça permet de s'en protéger.
Flora, peut-être. Moi, je voulais juste rebondir sur. Est-ce qu'il faut de l'humour dans les médias ? Moi, je suis une militante écolo et quand on est. Enfin, voilà, quand on était dans les milieux écolos en 2020 et que le film Don't Look Up est sorti, je ne sais pas si vous l'avez vu, on s'est dit, ok, c'est bon, le problème, c'est l'humour dans les médias. Enfin, c'est un des vrais sujets, enfin, l'infotainment, c'est un des vrais sujets qui est traité par le film.
Juste pour rappeler, donc, ce film sur une plateforme fort connue, une catastrophe arrive, une météorite, si je me souviens bien, doit toucher la Terre. Bon, et donc, des scientifiques essayent d'alerter la société, et notamment aussi dans les médias, et personne ne les entend.
Ouais, c'est une métaphore du réchauffement climatique, et en gros, tout le monde se tape des grosses barres. Il y a l'espèce de Elon Musk qui propose de financer le problème. Il y a tout le monde est en fait un caractère comique et veut faire de l'infotainment. Donc, du coup, il y a une chercheuse très sérieuse qui a vu le problème, qui se fait complètement ridiculiser sur un plateau télé, parce qu'en fait, on préfère en rire, enfin rire et tout. Et donc, à la fin, la météorite se crache sur la planète et c'est fini parce qu'ils ont préféré rire.
Parce que personne n'a écouté.
D'un problème, ils n'ont pas écouté. Et donc, c'est vrai que quand on est dans sa bulle cognitive de militant écolo, ce que j'étais au moment de la sortie de ce film, on se dit waouh, c'est fou comme le problème est bien adressé. Donc, la solution, ça doit être aussi de savoir traiter les sujets sérieux de manière sérieuse. Sauf que, après, je suis moi-même entrée dans les médias et j'ai dû. Donc, je suis sortie de ma bulle cognitive écolo et de cette façon de penser et j'ai découvert que c'était plus compliqué que ça parce que déjà, un média gagne sa vie sur le marché de l'attention. Donc, plus il y a d'audience, plus le média est rentable, plus il peut payer des journalistes, plus il peut fonctionner, etc. Donc, ça, c'est la loi du marché. On peut la regretter ou pas. En tout cas, c'est regarder les choses telles qu'elles sont. Et puis, je me suis rendu compte d'autres choses, surtout aux grandes gueules, c'est que les formats sérieux sont parfois excluants parce qu'ils sont parfois d'un niveau intellectuel qui n'est pas accessible à tous. Et en fait, je dis pas qu'il faut niveler par le bas et baisser le niveau, certainement pas. Par contre, être capable de rendre une info accessible à tous parce qu'on va ressembler aux personnes à qui on s'adresse, ou alors parce qu'on va avoir une façon de parler, qu'on va utiliser l'humour, que sais-je, il y a plein de façons de le faire. Je crois en fait que c'est quand même assez utile pour attirer des gens vers l'information, parce qu'on n'imagine pas à quel point il y a un nombre de bulles cognitives infinies dans le pays. Et donc, il y a des... Enfin, moi, j'hallucine, il y a des... Enfin, j'hallucine, mais c'est pas un jugement. Il y a des personnes qui savent pas, par exemple, que prendre l'avion, c'est mauvais pour la planète. Et c'est pas un jugement, mais j'ai juste envie de leur dire, en fait.
On peut avoir l'impression, en étant dans sa propre bulle cognitive, qu'il y a des connaissances, mais quand on sort de cette bulle, il y en a d'autres.
Oui, et moi, ce qui me fait le plus flipper aujourd'hui, c'est le fait qu'on se parle plus. Je trouve que c'est encore plus dangereux et grave que tous les autres problèmes.
C'est ce qu'on peut voir juste sur les réseaux sociaux, et je me permets juste, hop, je crois que... Voilà, Léa,
Léa, une question réseaux sociaux. Organisée, hein.
Sûr, il y a une transition parfaite.
Il y a plusieurs questions sur les réseaux sociaux. Vous évoquez les médias, que pensez-vous des réseaux sociaux où l'on donne son avis absolument sur tout? Une autre question, est-ce qu'à l'ère des réseaux sociaux, de TikTok, de X, où on doit résumer sa pensée à quelque chose de très condensé, est-ce que ça n'appauvrit pas les débats, finalement? Je ne sais pas qui peut répondre à ça.
Désigné. Je peux bien répondre parce que je suis plutôt un défenseur des réseaux sociaux qu'un contempteur. X, par exemple, c'est donner la parole à tout le monde. C'est profondément démocratique. Alors, bien sûr, il y a des aspects négatifs, il y a des prises de parole violentes, mais c'est fournir à chacun l'occasion d'exprimer sa pensée et donner aussi la possibilité à chacun de répondre à des institutions ou à des personnes qui sont inaccessibles. Alors, moi, je me rends compte que, moi, je veux dire, on me répond à moi, que parfois on s'adresse à moi d'une manière qui est un peu inacceptable, mais il faut savoir passer au-delà de cet aspect-là, pour comprendre que la prise de parole est profondément démocratique. Et les réseaux sociaux, en plus, sont un creuset formidable, à côté de défauts qui existent, j'en conviens, un creuset formidable de créativité, de sources d'informations, si vous êtes un peu curieux, vous pouvez découvrir mille choses sur les réseaux sociaux. Et je me rends compte que dans l'analyse aujourd'hui, on revient souvent aux réseaux sociaux pour expliquer les problèmes que nous connaissons, l'agressivité dans la société, les difficultés qu'il y a à communiquer, ce qui est au fond une forme de paradoxe. Je crois, après c'est mon avis, hein, je crois qu'on se trompe. On arrivera à acclimater davantage l'outil, à le civiliser un peu plus parce qu'il a besoin de l'être. Le problème de l'anonymat peut encourager des prises de parole problématiques, mais globalement, l'outil est démocratique. Il y a un inconvénient structurel avec l'outil, c'est que l'outil est en fait un appareil de pouvoir considérable pour une petite poignée d'individus. C'est-à-dire que ce sont des personnes privées qui ont créé ces outils grand public et qui du coup peuvent détenir un pouvoir très important. Ça, c'est un problème. Mais l'outil en lui-même apporte quelque chose à la démocratie, avec des défauts, je le répète, parce que je n'ai pas envie d'être mal compris, apporte quelque chose à la démocratie, et donc il vaut mieux le célébrer que le condamner.
Oui. Alors je vais dire quelque chose qui est peut-être un peu polémique, mais la liberté d'expression peut nuire à notre liberté de décision. Pourquoi ? Parce que quand on a des gens qui s'expriment, ils nous influencent, ils sont susceptibles de nous influencer. Pourquoi ? Parce que nous qui écoutons ne sommes pas toujours en mesure d'être capables de juger de la valeur de l'information. Parce que justement, nous ne sommes pas formés le plus souvent à l'esprit critique. Nous ne sommes pas capables de trier, nous n'avons souvent pas les compétences. Donc, ça peut vraiment poser souci. La liberté d'expression, quand elle n'est pas du tout contrôlée, elle peut faire du mal. Les réseaux sociaux peuvent nous faire du mal. Si on donnait la parole, même pareil dans le champ du journalisme, à un peu tout le monde et n'importe qui, sans trier, le fait de dire on donne la parole à tout le monde, non, ce n'est pas une bonne chose. Quand on regarde d'ailleurs la charte des journalistes...
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut couper à la source, plutôt que permettre aux gens de faire le tri
sur ce qu'ils entendent. Alors, après, au niveau de la façon de le faire, c'est quand même Il y a peut-être deux possibilités. Enfin, mais effectivement, quand je regarde la charte des journalistes, moi, j'ai été très étonnée de lire cette charte parce que je me suis dit, mais c'est génial. Il y a marqué notamment le fait que le journaliste se doit de répercuter des positions qui sont fondées, etc. Il doit essayer de nous donner le meilleur de l'information. Mais des fois, attention, je ne m'en prends absolument pas aux journalistes parce que je pense que les journalistes eux-mêmes ne sont pas toujours formés à l'esprit critique. Il y a des journalistes scientifiques, par exemple, dans le champ de la science, qui sont davantage capables que les autres d'aborder ces questions-là. Mais sinon, souvent, les journalistes sur d'autres questions ne vont pas forcément utiliser les bonnes méthodes lorsqu'ils vont sélectionner leurs sources d'informations. Donc, ça peut poser souci. Du coup, peut-être qu'on pourrait envisager d'améliorer la formation des journalistes pour leur permettre, effectivement, de nous offrir à nous qui sommes influencés par toutes les paroles que nous entendons, les contenus d'information qui sont les meilleurs. Là, ce que j'évoque aussi, c'est dans le champ, on va dire, des informations dans lesquelles on peut faire une distinction entre le vrai et le faux, par exemple dans le champ de la science. Dans le champ des opinions, il y a des fois, en fait, on ne peut donc pas faire ce tri, on ne peut pas dire ce qui est mieux, ça peut être totalement différent. Mais donc voilà, il ne faut pas sous-estimer ça. Alors, voilà pour ceux qui diffusent l'information, qui font leur sélection. Par contre, nous, qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite ? Je dirais que ça peut être bien pour essayer de se protéger, de se former à l'esprit critique pour essayer d'arriver à mieux décrypter l'information et prendre conscience de ce par quoi nous sommes susceptibles d'être influencés. Et donc, une des choses les plus importantes, c'est de se rendre compte qu'en fait, on doit se méfier de nous-mêmes parce que nous avons tendance à penser que nous sommes capables de juger. Alors qu'en fait, nous sommes extrêmement manipulés, manipulables, même par les personnes bien intentionnées.
Haroun, vous souhaitiez réagir peut-être sur... Bon, on va pas faire un débat sur le journalisme, mais peut-être...
La dernière phrase est très intéressante, parce qu'en plus, on a parlé de la Terre plate tout à l'heure, et j'ai écrit un sketch sur la Terre plate, dont je me suis renseigné, je suis allé sur les réseaux et les groupes de gens qui pensent que la Terre est plate. Et il y a un regret que j'ai par rapport à ce sketch, c'est que j'ai pas été assez égalitaire, c'est-à-dire que j'ai fait un sketch qui était rigolo, parce que c'est vrai que c'est rigolo de savoir qu'il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, mais moi je me suis posé la question en lisant ce qu'ils disaient, parce qu'ils abondent dans leur thèse avec des arguments. Je me suis dit, mais comment moi je sais que la Terre est ronde? Parce qu'en fait, l'argument principal des gens qui disent que la Terre est plate, c'est que si on leur dit non, la Terre est ronde, ils vont dire ok, prouve-le-moi. Et il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que la Terre est ronde qui ne savent pas le prouver. Et il a fallu que je me renseigne, moi. Mais en fait, non, mais ça m'a vraiment posé une question. C'est-à-dire qu'en fait, je suis sûr que la Terre est ronde, j'en ai aucun doute là-dessus. Mais si je dois l'expliquer à quelqu'un, et je dois dire par A plus B que la Terre est ronde, il a fallu que je me renseigne pour avoir l'argument. Et je regrette, après coup, de ne pas avoir abordé ça dans le sketch, c'est-à-dire que de critiquer les gens qui sont convaincus que la Terre est ronde, mais qui ne savent pas dire pourquoi, et qui ne se sont jamais intéressés à la raison pour laquelle ils sont convaincus de ça. Ça veut dire que ça devient une croyance, en fait, qu'on nous a transmise, et là, on est sûr que la Terre est ronde, tout va bien, mais il y a peut-être d'autres croyances qu'on nous transmet, hein, dont on est sûr, et en fait, c'est faux, et un jour, on va découvrir que c'est faux. Et ce qui est intéressant... dans tout ce qui vient d'être dit et sur les réseaux sociaux, moi là-dessus je vais dans le sens de Jean-Michel parce que ça m'a beaucoup apporté les réseaux sociaux, notamment par rapport à la critique que le public peut faire de ce que je fais. C'est très intéressant parce qu'ils n'oseraient pas forcément le faire en vrai, me dire qu'ils n'aiment pas ce que je fais. Mais quand c'est dit sur les réseaux sociaux, j'apprends des choses très instructives. Le problème qu'il y a, c'est que ça va beaucoup plus vite que mon cerveau et que le cerveau de la plupart des gens, c'est-à-dire que j'ai des collègues humoristes qui me disent c'est génial toi ce que tu fais pour communiquer, tu fais des vidéos de 10 minutes tous les 6 mois et nous on fait des vidéos toutes les semaines ou tous les jours et on n'a pas autant de gens qui regardent les vidéos. Je leur dis mais moi le problème c'est que je mets du temps à savoir ce que j'ai envie de dire et en fait ça va beaucoup trop vite pour moi et donc il faut que je prenne le temps de me renseigner sur le sujet et je suis pas assez expert pour aller si vite que des journalistes ou que j'ai pas, peut-être pas le bon processus, mais je mets beaucoup de temps à écrire, ce qui fait que je sors une vidéo de 10 minutes tous les 6 mois, mais je dirais peut-être que pour essayer de répondre un peu à la question et sur le questionnement qu'avaient les étudiants de tout à l'heure, c'est-à-dire que réagir à la polémique Aya Nakamura, JO, etc., on peut réagir à chaud et dire oui, non, je suis pas d'accord, etc. Mais après, c'est intéressant de se renseigner sur que représente Edith Piaf, que représente la chanson populaire et comment elle est devenue au fil des années, etc. Et avoir un avis vraiment construit. Mais ça demande 2 semaines, 3 semaines, ça demande des lectures, etc. Et je dirais que il y a une question de temporalité de la vie qui est très importante. Ça implique des discussions, mais je dirais que les médias ou les réseaux sociaux sont dans une immédiateté de l'audience et il y a la capitalisation, enfin le capitalisme qui s'empare de la vie en fait ou du propos, qui fait qu'on n'a même pas le temps de se retourner, qu'on est déjà passé à la question suivante et on n'a pas eu le temps d'avoir un avis dessus.
Est-ce que les réseaux sociaux, justement, vous qui donc pouvez donner votre avis, et qui êtes aussi des personnalités publiques, est-ce que cette puissance justement de feu finalement des réseaux sociaux, cette immédiateté, vous fait des fois réfléchir ou hésiter à donner un avis, à faire une chronique, en se disant peut-être qu'elle va être décontextualisée, du coup, bon...
En fait, je ne vais pas répondre à la question. C'est ce que j'ai entendu qui m'incite à répondre. La liberté d'expression serait un problème. Je voudrais juste raisonner un petit peu là-dessus. La démocratie repose sur une forme de confiance fondamentale. Nous sommes tous égaux. Nous avons tous le droit à la parole. Celui qui lit et celui qui sait. Et comme celui qui ne lit pas et qui ne sait pas. Le bulletin de vote a le même poids. Quelle que soit l'activité de l'individu dans la cité, s'il est un citoyen, il est égal aux autres citoyens. Si on sort de cette idée, et je suis désolé, c'est pas du tout... pour manifester ou marquer un désaccord avec vous. Si on sort de cette idée, si on dit que la liberté d'expression est un problème, on entre dans une séquence extrêmement dangereuse. D'une certaine façon, nous n'en sommes pas loin. On voit les mouvements illibéraux gagner du terrain sur ce vieux continent qui a fabriqué la démocratie. On a vu la guerre en Ukraine leur faire un peu le clapet, c'est pas mal. On a vu des admirateurs de Poutine au cœur même de notre démocratie, c'est-à-dire des admirateurs d'un détracteur. Nous connaissons des réseaux sociaux verrouillés dans certains pays. En Chine, en fonction de l'actualité, des mots-clés ne peuvent pas être utilisés. Exemple, il y a quelques années, le fils d'un dignitaire chinois a sur le périphérique chinois, avec 2 filles à l'intérieur, il était au volant, un accident. Il pilotait une Ferrari rouge. Eh bien, pendant 2 mois, ni le mot Ferrari, ni l'adjectif rouge n'ont pu être employés par les utilisateurs de Weibo, je crois, le réseau social X chinois. La liberté d'expression, qui est encadrée par la loi, hein, dire que tous les Arabes sont des voleurs, que tous les Blancs sont des fainéants, enfin, ou je ne sais pas quoi, ça, c'est pas possible. Le racisme est impossible. Les discriminations sont impossibles par le verbe. Mais quand on est dans le cadre de la loi, parce que la liberté d'expression, donc, est relative, la liberté d'expression est évidemment un trésor à préserver. Chacun de nous est manipulable. Évidemment. Mais c'est ça la confiance. C'est de penser que chacun de nous peut surmonter la manipulation. Moi, je suis manipulable. Moi, je sais tout sur tout. Et pourtant, je suis manipulable. Eh bien, je peux, laissez-moi cette chance, surmonter la manipulation, entrer dans des formes de raisonnement où certains citoyens seraient supérieurs à d'autres, et encore une fois, j'ai peur quelquefois que dans l'air du temps, il y ait cette musique. Celle-là, moi en tout cas, je la combattrai.
Séverine, avant de prendre quelques questions.
J'aimerais savoir s'il est possible de nuancer cette position-là. Parce que moi, est-ce que j'ai dit par exemple qu'on devait empêcher certaines personnes de s'exprimer ? Je ne l'ai pas dit. Je pense que la liberté d'expression est très importante. Par contre, est-ce qu'on doit empêcher de s'exprimer par exemple des personnes qui vont vous dire de soigner votre cancer en pratiquant le crudivorisme ? ben, s'il y a des personnes qui vont les suivre, qui vont être influencées, moi, je ne leur ferai pas simplement confiance pour être libre de choisir. En fait, on est libre que dans la mesure où on sait quelles sont les conséquences des choix que l'on fait. Donc la liberté n'est vraiment une liberté que quand le choix qu'on va émettre est un choix éclairé. Donc moi, personnellement, si on me demande si nous sommes tous égaux face à la manipulation, etc., ben, je dirais que non, parce qu'en fait, il y a effectivement ceux qui savent faire face aux tentatives manipulatoires, et puis il y a les autres. Et puis, au niveau de la compétence, nous ne sommes pas tous égaux. Moi, si un jour je dois me faire opérer du cœur, je ne vais pas aller voir un dentiste. Mais par exemple, truc tout bête, hein, je suis aussi psychologue. Je suppose que parmi vous, tout le monde ne sait pas faire la différence entre un psychologue, un psychothérapeute, un psychanalyste, un psychopraticien. Bon, eh ben, un psychiatre, je ne sais pas si je l'ai mentionné. Pourquoi ? Vous allez dire, oh, j'ai vu un psy, et puis peut-être que vous direz même, c'était une catastrophe. Mais qui vous dit, en fait, qu'il n'existe pas dans le champ de la psychologie des compétences qui auraient vraiment pu vous permettre d'aller mieux ? Sauf que peut-être que vous n'êtes pas tombé au bon endroit. Donc, la liberté d'expression, c'est bien. Par contre, le fait de dire, faisons attention, parce que nous sommes beaucoup plus influençables, beaucoup plus manipulables que ce que nous le pensons, c'est important parce que nous avons besoin de nous protéger parce que ça peut avoir des conséquences sur notre santé, sur les choix éducatifs que nous faisons, dans plein de domaines. Il y a des gens qui sont susceptibles de mourir, on le voit. Il peut y avoir par exemple dans le champ de la santé des retards de traitement, des pertes d'argent et puis des pertes de chance. Donc ça n'est pas anodin, hein. On peut tomber dans la dérive, dans le champ des fausses croyances. Et c'est aussi l'une de ces raisons, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles en fait on se doit, je pense, d'échanger ensemble, de donner son avis, après, toujours en regardant sur quoi notre avis est fondé. Parce que si, par exemple, nous disons « Pouf, ces gens-là qui pensent que la Terre est plate, ils sont stupides, ils sont minoritaires », eh bien, qui nous dit qu'en fait, du fait de l'influence sociale, par exemple, des réseaux, etc. Parce que quand on va voir, en réalité, ils n'ont pas l'air du tout idiots, ceux qui disent que la Terre est plate. Ils ont un système argumentatif qui paraît très complexe, qui pourrait peut-être même nous faire douter pour certains, quand on n'a pas absolument tous les éléments. Donc, si on se contente de dire ça, qui nous dit qu'ils ne vont pas prendre de l'ampleur, etc., et qu'ensuite, un jour, ils deviendront majoritaires ? Et dans ce cas-là, eh ben, je me demande si on rira encore, parce que peut-être que ce sera d'autant plus difficile ensuite de lutter contre ces positions-là. Peut-être qu'on va avoir des gens, voilà, dans le champ de la santé qui vont nous faire croire n'importe quoi et qui vont se mettre à rentrer à l'hôpital. Parce que ceux qui prennent des décisions, les politiques, les journalistes, etc., diront « c'est bien, allons-y ». Et puis on va se retrouver dans un monde dans lequel on sera moins bien soigné, on sera moins bien pris en charge, et puis on prendra des décisions en fait qui ne nous permettront pas de vivre au mieux. Voilà. Et Laura, toujours là encore quand ça implique
C'est déjà le cas. Les politiques se font influencer, ils se font manipuler. Il y a des rapports scientifiques produits par la Commission européenne, donc par une institution publique européenne, qui reprenaient mot à mot des paragraphes entiers de rapports scientifiques de lobby. Donc en fait, ils avaient mis des équipes scientifiques de dizaines de personnes sur un travail de recherche, et il y avait des paragraphes entiers qui ont été mis en exergue, qui étaient similaires. Donc en fait, les politiques sont déjà, et la décision, elle est déjà influencée. Et je ne crois pas que quelqu'un qui aille se soigner d'un cancer par du cru, on pourra l'empêcher dans la société dans laquelle on est de croire ce qu'il a envie de croire, en fait. Il y a toujours eu des croyances alternatives, et d'ailleurs parfois majoritaires. On disait bien au catéchisme que les juifs étaient Satan jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Donc ça n'a jamais empêché les croyants, enfin on n'a jamais réussi à empêcher ceux qui voulaient croire à des choses fausses et alternatives de le croire. Par contre, là où je crois qu'on a une responsabilité, et c'est un peu ça l'histoire David contre Goliath, dans le cas de ces rapports scientifiques avec les lobbyistes qui ont le pouvoir de manipuler à grande échelle parce qu'ils ont les moyens financiers de le faire, c'est là qu'on a peut-être une responsabilité de manipuler en retour. Et donc, désolée d'utiliser ce terme, d'ailleurs, manipuler, c'est un terme qui est péjoratif, mais manipuler, ça veut juste dire aussi, pour moi, convaincre et influencer. Et donc, peut-être que, en fait, toute la question, c'est l'articulation entre la place de la vérité au sens scientifique du terme et la conviction de la majorité. Et peut-être que la bataille politique et médiatique, elle se joue dans la conviction de la majorité, plus malheureusement que dans la recherche de vérité. Mais après, il faut tout pour faire un monde, et donc le politique doit lire les rapports scientifiques pour faire sa conviction.
Voilà, le temps passe, clair. Il nous reste 10 minutes. Léa, peut-être qu'on peut prendre des questions. Et d'ailleurs, si dans la salle, vous voulez prendre le micro, voilà, juste devant.
Bonjour et merci beaucoup pour ce moment, j'espère. Je voulais vous poser une question, c'est en réaction à ce que vous dites, Séverine, mais la question s'adresse à tout le monde. Vous parlez beaucoup des experts, des scientifiques pour se faire un avis. Mais en fait, pour moi, les scientifiques ou les experts, par exemple, ils vont nous servir à savoir si la Terre, elle est ronde ou pas. Mais ça, c'est pas un avis pour moi. Pour moi, l'avis, ce serait de se demander est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal que la Terre soit ronde. Pour moi, c'est ça, avoir un avis, c'est plutôt ça. Et donc, je me demande, est-ce que pour vous, l'expérience, elle n'est pas plus importante que la connaissance pour pouvoir vraiment se faire un avis ?
Vous, Flora, vous êtes jeune, du coup. Plus si jeune, effectivement. Mais à partir de quand on a vraiment le droit de donner son avis et comment ?
Ça questionne cette idée de la légitimité. Moi, je me sentais pas du tout légitime. J'ai failli jeter mon premier livre à la poubelle de mon ordinateur, ma poubelle virtuelle, des dizaines de fois. Et puis, j'ai regardé des conférences féministes et dans lesquelles je voyais justement toutes ces questions que vous connaissez peut-être. On en parlait, Josépha, les journalistes du Monde, quand ils invitent des femmes à participer, elles répondent souvent « Alors non, je ne suis pas assez compétente, mais par contre, mon collègue masculin X pourra vous répondre. » Et ils disent « Non, si je vous parle à vous, c'est vous que je veux entendre. » c'est toute la question de la légitimité. Est-ce qu'on est légitime quand on est jeune, quand on est une femme, quand on est je sais pas quoi, peu importe. Et moi, j'ai décidé de prendre ma légitimité. Et donc j'ai décidé d'être légitime parce que je travaille et parce que je connais mes sujets et parce que j'ai une expérience de terrain de militante et parce que j'ai des convictions. Et pour moi, pour répondre à cette question-là qui est très juste aussi, la question c'est pas est-ce que la Terre est ronde ou plate. Grâce aux scientifiques, on sait qu'elle est ronde, je crois. La question c'est est-ce que c'est bien ou mal. Et c'est là que le politique intervient parce que le politique c'est quelqu'un qui a une boussole et qui est capable de prendre une décision. Et je vais vous dire, quand on travaille sur la transition écologique, dans le fond, tout a des externalités positives et négatives. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on appelle l'effet rebond, mais en gros, il y a des choses qu'on pense être hyper positives pour la planète, et en fait, en faisant des mesures d'impact après coup, et on ne peut pas le savoir avant, on apprend qu'en fait, il y avait un autre truc négatif. Et je crois que c'est ça aussi un peu l'histoire de l'humanité, c'est qu'on avance sur un sujet, et en fait, du coup, on recule sur un autre, ou on perd quelque chose d'autre. Donc en fait, peut-être on gagne, on perd à chaque fois. Et la responsabilité du politique, c'est de prendre un pari, parce qu'il a une boussole de valeur, une boussole de conviction, et qu'on l'a élu pour donner la direction aux gens qui n'ont pas forcément un avis sur tout. Et donc, c'est là la différence entre les faits et les avis, ou les faits et l'opinion. Et c'est pour ça qu'effectivement, il ne faut jamais remettre en question une parole scientifique et institutionnelle, parce que ce qu'on a oublié dans ce débat pour l'instant, c'est les institutions et leur rôle. Et ce qui me fait très peur, c'est la défiance qu'on peut avoir. On lit CNRS ou SNRS sur YouTube, on voit pas la différence en fait. Et non, le CNRS c'est un institut de recherche publique, le SNRS je viens de l'inventer. Donc là il y a un problème. Et je crois, moi aux institutions encore, je crois qu'on doit avoir confiance dans nos institutions et que la défiance qu'on peut avoir aujourd'hui est une vraie menace pour la démocratie. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, faites le test avec vous-même, dès que vous entendez parler à un politique, vous vous dites qu'il vous ment. En tout cas, souvent, il suffit que quelqu'un ait un mandat politique pour que sa parole soit démonétisée par le plus grand nombre. Et il y a des études qui le montrent.
Et après, on prendra deux questions pour ceux qui veulent lever la main.
Pour la question de l'expérience, moi, si je regarde par la fenêtre, je vois que la Terre est plate. Donc non, l'expérience personnelle, en termes de niveau de preuve, elle est assez limitée.
là encore toujours quand on touche à ce qui relève de la science de la connaissance. Et le deuxième point, c'est que effectivement, la science ne fait que nous dire, quand on est dans telle configuration avec telle variable, voilà quelle est la probabilité la plus importante d'aller dans telle direction. Elle ne nous dicte pas les positions éthiques. Et donc, nos choix ensuite derrière, c'est à nous de les faire. Par exemple, il peut y avoir une personne à laquelle on dit, vous savez, si vous suivez une chimiothérapie, vous avez 95% de vous en sortir. Et cette personne peut très bien faire le choix, même si ça pourrait paraître complètement contre-intuitif, de dire « je n'ai pas envie de suivre ce traitement, tant pis ». Et alors qu'on va lui dire « si vous ne le faites pas, vous avez 80% de chances de mourir ». Elle pourrait dire je ne veux pas ». Bon, mais là, ce serait un choix éclairé, parce que c'est respectable. Et le problème, c'est quand les gens pensent qu'ils sont libres de faire des choix, mais en fait, qu'ils n'en ont pas les moyens. Je veux dire, un enfant, si on lui dit « ne cours pas, il y a une route, tu risques de te faire écraser », en fait, on va vouloir le protéger. Et ce n'est pas parce que les gens sont des adultes, parfois, qui savent mieux raisonner, qu'ils ont tous les outils pour le faire. Et je ne suis absolument pas infantilisante en disant ça, parce que c'est vraiment une question de connaissance et de compétence. L'esprit critique, en fait, doit allier les deux. Avoir des connaissances dans le champ investigué. Parfois, on peut avoir des connaissances, être un grand scientifique, etc., mais ne rien connaître aux sciences humaines et sociales. Donc, quand on veut investiguer une question, il faut avoir des connaissances sur le sujet, être capable de voir quelles sont les sources, etc., auxquelles on peut faire confiance, et aussi aller voir par soi-même comment sont articulés les raisonnements, voir quand, dans son mode de traitement de l'information, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'accéder aux informations les plus justes. Par exemple, on aurait tendance à plutôt valider ce qui va déjà dans le sens de ce qu'on sait. Ça s'appelle le biais de confirmation d'hypothèse. Mais il y a plein d'autres choses. Le fait d'entendre certains dire une position et puis une position extrême de l'autre côté, on pourrait se dire « oh, il doit y avoir un peu des deux ». Sauf que la Terre n'est pas un peu ronde, un peu plate. Donc voilà, connaître tous ces éléments-là. Et ceux qui ne connaissent pas, entre-temps, il faut les protéger. Il faut essayer de se protéger soi-même, mais du coup, faire attention aussi à la façon dont on va influencer les gens de manière à ne pas porter atteinte aux autres.
Jean-Michel, et après monsieur.
Oui, j'espère être synthétique. Expérience. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez donner, vous devez donner votre avis à partir de 18 ans, en votant. Donc, pas parce que vous avez de l'expérience que vous avez le droit de vote. Vous avez le droit de vote parce qu'on considère que vous êtes un citoyen. 18 ans. Voilà. Donc déjà, et l'expertise, ça me rase un peu l'expertise, je dois bien vous avouer. Moi, je m'intéresse depuis longtemps à la question de la dette et des finances publiques. Mettez 5 économistes ou 5 experts des finances publiques. Ils auront 5 avis différents. Donc l'expertise ne nous aide pas forcément à raisonner, ou du moins, l'expertise ne nous sert qu'à ça, à nous aider, nous, à raisonner. Mais le point d'aboutissement du raisonnement, c'est nous.
Alors, une première chose à dire. Peut-être qu'il y a 5 économistes différents qui se disent experts et qui vont avoir des avis tous différents, mais dans le champ des sciences, il y a des sciences qui sont plus ou moins construites. Il y a des sciences qui se disent sciences et qui le sont un peu moins que d'autres. Si moi je me mets debout et que je prends mon micro et que je le lâche, je peux vous prédire qu'il va exploser par terre. Je vais vous montrer.
Non,
alors, non, je ne vais peut-être pas le faire, mais j'aurais pu le faire. Et vous voyez, il y a des choses qu'on peut prédire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, des fois, les scientifiques, ils sont en désaccord les uns avec les autres. Et ça, c'est parce qu'il faut faire aussi une distinction entre ce qu'on appelle la recherche scientifique. Des fois, il y a des positions qui sont encore en discussion. Mais de l'autre côté, il y a aussi des connaissances qui sont solides. Et en ce sens, l'esprit critique, l'exercice de l'esprit critique, ça ne consiste pas à douter de tout. Il ne faut pas tomber dans le relativisme. Il faut aussi savoir ce qui est fiable. Parce que douter de tout, ça consiste en fait à ne plus être capable de faire la différence entre les choses. Et ça, c'est dangereux. Et peut-être que le complotisme va consister à douter de tout par définition, sans être capable d'identifier ces sources solides sur lesquelles on peut s'appuyer, en lesquelles on peut avoir confiance. Il faut être capable de faire du tri. Et voilà. Et avec les bonnes méthodes, parce que les complotistes, ils ont plein de qualités qui vont dans le sens de l'esprit critique, mais malheureusement, ils n'ont donc pas forcément tous les bons, ils n'ont pas intégré tous les éléments qui leur permettent d'aboutir à de bonnes conclusions.
Ah oui. Et ça sera le dernier mot.
C'est un vrai mot de la fin ?
C'est le vrai mot de la fin, donc voilà, c'est très sérieux,
d'accord.
Là.
Ouais, ouais. Non,
les gens ne retiendront que ça.
Ok. Donc, Je vais lâcher le micro par terre. Et il va rester en suspension. Je dirais juste que déjà, on peut remercier les étudiantes qui ont soulevé ce sujet.
Elles vont revenir.
C'était vraiment super. Si je dois donner un mot de la fin, c'est que pour formuler un avis, c'est toujours bien de discuter, même si douter de tout, c'est remis en question. Au moins, écouter tout le monde, quel que soit l'avis, même si parfois il y a des avis qui sont bizarres. Écoutez les gens qui pensent que la Terre est plate, mais vraiment écoutez-les. C'est très intéressant parce que ça vous permettra de vous de consolider vos opinions, consolider vos avis si vous en avez, ou en changer si vous pensez qu'ils ne sont pas assez solides.
Et je me permets de... Je me permets de réaccueillir Bleuen, Oksana et Clémentine pour conclure cette rencontre.
Merci. Alors du coup, voilà, pour cette conférence, on voudrait remercier déjà nos invités et tous ces échanges qui ont eu lieu.
On vous remercie également, vous, le public, d'être venus très nombreux. On remercie les Champs Libres, la Métropole de Rennes, Sciences Po et Le Monde, qui ont permis l'organisation de cette rencontre et de ce festival.
Bon après-midi à tout le monde et à bientôt.